Le choc des idées.
Oui, le choc des idées avec Martin Biron. Hello, Martin.
Hello, Martin. Et François me posait une question si j'avais été pas mal occupé vendredi. Pour moi, c'est facile. Je m'assieds dans le coin puis je regarde les experts de l'autre bord qui travaillent sur le cellulaire. À un moment donné, j'ai regardé mon cellulaire. Il était à 100 % de batterie. Puis ça faisait une heure que je l'avais pas regardé. Fait que c'est parfait.
Ben, on peut commencer. Je veux commencer, puis tu sais...
Là, François, lui, son cellulaire, il a passé de 100 à 0 assez vite, puis il a probablement mis 20 heures sur son screen time.
Mais je veux dire une chose, ça n'a pas de bon sens. J'ai beau essayer, là, puis j'essaye, puis mes collègues de Toronto, que ce soit à TSN, que ce soit Elliott à Sportsnet, il y a quelque chose qui me dépasse. Parce que j'ai eu des conversations avec quelques directeurs généraux avec qui j'ai plus de rapprochement. À un moment donné, il y en a un qui m'a dit « Ah, oh, j'ai oublié de te réécrire. Easy, je t'ai pogné avec tes chums de Toronto. » Fait que tu sais, c'est comme... Fait qu'à un moment donné, tu dis, quand tu regardes ça, tu dis « OK, je ne perdrai pas mes énergies à essayer de rivaliser avec des gars qui sont trop forts. Je ne serai pas capable. Je vais me concentrer pour... analyser le mieux possible qu'est-ce qui va arriver, comprendre tout ce qui se passe, avoir parlé à d'autres directeurs généraux pour avoir un peu leur plan, leur stratégie, de manière à faire un peu de sens par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais malgré tout ça, il y a des choses vendredi qui m'ont ébloui totalement.
Nommez-les.
Le dossier Rantanen, j'en reviens juste pour...
Avez-vous vu Brind'Amour aujourd'hui?
Oui, je suis content. Je suis très content parce que je l'ai dit sur RDS vendredi, puis je pense qu'on s'en était parlé, Martin. Brind'Amour, quand il est venu à Montréal, c'était clair que Rantanen, c'était pas son choix. Non. Et c'était clair qu'il savait que Caroline, c'était pas le choix de Rantanen non plus. Il me l'a pas dit comme il l'a dit aujourd'hui, mais aujourd'hui, il a expliqué à tout le monde pourquoi cette transaction-là avait aucun sens pour les Hurricanes au début.
Écoute, j'ai vu ça passer sur un post Twitter que je cherche. Il dit il n'y a pas une personne ici qui a quitté la Caroline et qui n'était pas content à part Rantanen. Il est arrivé ici et il a dit moi, il y a quatre équipes pour qui je veux jouer puis vous n'êtes pas une de ces quatre-là. Jour 1, c'est ce
qu'il dit. Mais hier, là, elle va dire, là, Rantanen, hier soir là, contre Vancouver, là, c'était le même joueur qui a joué toute sa carrière à Colorado puis complètement différent de ce qui était à Caroline. Puis écoute, Caroline, là, ils sont vraiment mis dans une mauvaise position en allant chercher Rantanen sans contrat. Dallas, ça ne va pas faire ça. Mais au moins, ils sont allés chercher quelque chose. Stankoven, c'est un bon joueur, puis il a bien performé. Puis, tu sais, au moins, ils sont allés chercher quelque chose. Ils n'ont pas laissé partir, comme l'année passée, Gensel à la fin de la saison, puis tu n'as rien pour retour.
Il y avait eu un choix tardif, là. Ouais. Mais écoute, ce dossier-là fait très mal paraître la Caroline, OK? Ouais. Mais Eric Toski, il a sauvé la face avec la transaction. Moi, si je suis Jim Neal, là, écoute, j'ai aucun intérêt à donner autant que ça à Caroline. Tu sais, on avait une discussion, Marc-Denis, Pierre-Houd, puis moi, avec Bob Hartley, puis André-Anne. Puis tu sais, Bob puis Marc disaient que c'était les grands perdants à la Caroline, puis je suis d'accord au niveau de l'image. Mais deux choix de première ronde, c'est sûr que ça va prendre du temps, puis c'est pas des hauts choix de première ronde. Mais Logan Stankoven, tout de suite de même, il est meilleur que ce que Rantanen donnait à la Caroline. Alors, je trouve que la Caroline s'en est très, très bien sortie au niveau hockey, là. Pas au niveau relations publiques, mais au niveau hockey, ils s'en sont très bien sortis.
Frank, comme t'aimes le golf, là, ils ont fait un chip-in pour double bogey. Ça aurait pu être un trip, un quadruple, mais ils ont chip-in pour double.
J'adore ta comparaison.
Moi aussi, je trouve qu'en Caroline, on s'en est bien sorti parce qu'eux, ils ont négocié à Netchash. Ils n'ont pas été capables de s'entendre, ils ont donné un court terme. Il n'y aurait jamais eu pour Netchash ce qu'ils ont eu avec le retour sur Rantanen. Fait que,
exact.
J'ai trouvé ça très bien. Messieurs, Martin, t'as-tu aimé Cousin pour Josh Norris? Es-tu capable d'expliquer pourquoi vous avez donné un 2 de plus?
Ben, c'est ça l'affaire que je me demandais. Pourquoi qu'on a donné un 2 de plus? Probablement parce que Gilbert, c'est un 8e, puis Bernard Docker, il est meilleur. T'sais, pas qu'il y a eu de gros moments à Ottawa, mais d'après moi, il est meilleur que Dennis Gilbert. Alors, je me dis que Buffalo voulait vraiment faire la transaction. Buffalo voulait se départir de Cousins. Puis ils se sont dit, si on est capable d'avoir Norris, un choix de deuxième. Ils veulent un choix de deuxième, là. Steve Steos, il veut un choix de deuxième pour faire la transaction. Ah ouais, vas-y, je te le donne, là. Je veux me départir de Cousins, puis je veux avoir Norris.
Mais Martin, moi, là, ça, c'était le numéro 2, c'était la gestion à Buffalo. Puis, regarde, t'es bien plus proche des Sabres que moi, puis toi, t'es connais personnellement, là. Mais je regarde ce qui se passe là, puis je me dis, depuis le nombre d'exemples qu'on a eu de joueurs qui sont partis de Buffalo et qui sont devenus, qui se sont mis à jouer à la hauteur de leur potentiel, le problème, c'est les Sabres. Le problème, c'est pas Cousins, puis c'est pas O'Reilly, puis c'est pas Bennett, puis c'est pas tous les autres qui sont passés avant. À un moment donné, là, il va falloir que quelqu'un dans la famille Pegula dise, coudonc, on gaspille combien de talents il va falloir gaspiller encore.
François, pour que je vais te dire ça vite, là. Eichel, c'est une superstar. Il s'est fait échanger à cause de... Tu sais,
oh oui, mettons que le fit n'était pas là, il était
bon. Reinhardt, on savait tout qu'il était très bon, mais là, il voulait passer à quelque chose d'autre. Il savait qu'il allait le perdre.
Ah, j'ai dit Bennett, je voulais dire Reinhardt, ouais. Excuse-moi.
Ryan O'Reilly, c'était déjà un top, puis Ryan O'Reilly, c'était comme... Tu sais, il était plus vieux, on passait à d'autres choses. Mais regarde, là, des Casey Middlestad qui s'en ont départis, gars, Colorado, ils ont dit « ça marche pas, ça ». Hey. Buffalo est bien meilleur que Bo Byram. Rasmus Ristolainen, dans le temps, hey, il mène à... Imagine l'argent qu'il fait à Philly. Tu sais, je pense qu'ils ont fait des bons coups. C'était trois-là, l'exemple que tout le monde se sert, je comprends ça. Mais c'était
Linus
trois...
Linus Ullmark?
Il était déjà... Hein?
Linus Ullmark aussi?
Ullmark, là, il voulait le garder, mais Ullmark, il voulait un autre... Ah, tu sais, là, quand toi puis moi, là, on s'entend, OK? Il allait le garder. Puis là, tu m'appelles, puis tu dis, « Ah, au lieu de 4,8, je veux 5. » OK? Au lieu de 4 ans, j'en veux 6. Ben là, écoute, à un moment donné, là, tu te dis, là, moi, je suis fini, là. Je pense à d'autres choses. C'est ça l'affaire. Je comprends. La perception est mauvaise pour Buffalo.
On ne sait pas ça.
Moi, je te dis, là, Martin, on en a parlé de Cousins, là. Norris, il y a eu des blessures, oui, mais comme joueur, je pense que Norris, il va complètement dépasser ce que Cousins va faire à Ottawa.
Un joueur plus costaud, plus physique que Cousins. Je pense que son sens du hockey, Martin, tu me corrigeras, est encore douteux. T'sais, on a un doute sur son sens du hockey. Parce que Norris, on parle vraiment d'un joueur intelligent, un joueur créatif qui peut jouer autant en avantages numériques qu'en désavantages numériques. Je pense que les
différents... de voir.
Deux ans d'expérience de plus dans la compréhension du jeu, dans la gestion du jeu, c'est un monde de différence.
Moins toutes ses blessures, ça égale pareil.
OK, là-dessus, je dois admettre.
OK, on s'amuse. Suite aux ajustements de Kent Hughes, dans les 60 dernières heures, la gestion des effectifs, le statu quo à date limite des transactions, le Canadien démontre qu'il veut vraiment être en série. Les deux, vous avez répondu absolument. Alors que moi, je me pose la question, ils n'ont pas été chercher aucune aide, comme Nico Sturm, switcher un 4 pour un 7, puis ils sont dans l'Ouest avec le minimum, prêts à jouer comme 12e ou peut-être même 11e attaquant, Pezzetta. Les deux, vous avez répondu absolument. En quoi vous trouvez que le Canadien a l'air de favoriser le Canadien et non pas le Rocket? François, t'as l'air...
T'as pas écouté Kent Hughes ou t'as pas voulu le croire?
Non.
Parce qu'il l'a dit, quand il est parti à la pause de la confrontation des quatre nations, il a changé les quatre. Son équipe était sur le déclin. Ils reviennent, il en gagne cinq, il dit, OK, je reste... À moins que j'aille la lune... Je bouge pas. Alors, il a travaillé pour son équipe. Sinon, vendredi à 3h, imagine le Canadien qui se prépare à affronter les Flames à Calgary. Ben là, t'as plus Savard, t'as plus Armia, t'as plus Evans, à moins qu'ils se soient entendus avec lui là, quand même, et t'as plus Dvorak. Ben là, si tu perds ces quatre-là, je m'excuse, là, non seulement tu y vas plus pour les séries, mais là, tu es obligé de vider Laval, puis tu fais du trouble au Rocket en plus, parce que ça te prend du renfort, ça te prend quatre joueurs.
Mais il en fait du trouble au Rocket, là. Parce que là, il est dans l'Ouest, là, puis il n'y a pas de joueurs substituts. Il est obligé de garder Dak et Goulet. Ça liste des joueurs réguliers sans être ses blessés pour faire des rappels d'urgence, pour pas que ça compte pour des rappels. Pour vrai, là, un switch de 4 pour un 7 pour Nico Sturm, pour nommer juste celui-là, c'était des affaires qui auraient pu juste amener de l'expérience Ligue nationale pour dire assez. Parce que là, Suzuki, ça joue 25-26. Caulfield, qui a eu un bon match, joue 25-26. Ça n'a pas de
Martin
sens.
Martin Laval,
ça.
Sont où?
Premier, là. Après avoir battu T-American de Rochester.
Ils vont-tu faire les séries?
Laval, oui.
OK. Qu'ils finissent premier, qu'ils finissent troisième dans la Ligue américaine, là. Ils s'en foutent un peu. Eux autres, là, les Beck puis les gars que tu rappelles, là, ils vont avoir de l'expérience Ligue nationale. Ils vont se retourner dans la Ligue américaine à la fin de l'année. Ils vont être là pour les séries. Je pense que de finir premier, deuxième, troisième dans la Ligue américaine, c'est pas le but. Le but, c'est que, OK, on a gardé les joueurs qu'on pouvait peut-être les vendre pour des choix. On n'avait pas besoin de ça. On se donne la chance de peut-être rentrer en série. Puis à Laval, tu sais, t'as toujours bien des gars dans la Ligue américaine. OK? T'as des joueurs là qui sont assis dans les estrades, qui veulent jouer. C'est des bons joueurs. Là, ils vont avoir la chance de jouer un peu. Tu vas voir, tu vas te servir un peu de ta profondeur. Puis quand, à la fin de l'année, toute cette gang-là, si le Canadien ne fera pas les séries, ils reviennent. Ben là, t'as ton top équipe. Puis en plus, t'as de l'expérience Ligue nationale dans ton alignement.
OK. Le Canadien méritait un meilleur sort contre les Flames de Calgary samedi soir. Absolument pas pantoute.
Moi, j'ai dit pas pantoute. Ça a fini 1-0 ce match-là. Les deux équipes méritaient de bons sorts. Je veux dire, le Canadien, si tu fais voler, pas pantoute. Les deux clubs ont joué des bons matchs. Il est arrivé au Canadien ce que je craignais après la séquence de 5 victoires de suite, dont les 3 dernières, quand ils ont moins bien joué que le club qu'ils ont battu. Ils ont joué un bon match à Edmonton, ils l'ont perdu en prolongation. Ils ont joué un bon match samedi. Est-ce qu'ils auraient pu gagner? Oui, mais ils ne méritaient pas nécessairement un meilleur sort. D'autant plus que Dustin Wolf a prouvé à ceux qui ne savaient pas comment est-ce qu'il s'appelait puis qui disaient « Ben oui, non, il n'y a pas d'affaire dans la course au Trophée Calder. » Ben, il a prouvé qu'il a sa place certainement sur un pied d'égalité avec Hudson et McElhinney, sinon un petit peu plus haut, puis moi je l'ai encore numéro un. Mais j'ai toujours eu un faible pour les gardiens.
Brûle pas nos autres questions, là, François, vous entendez pas ça.
Excuse-moi.
Marty, le Canadien méritait un bien meilleur sort contre les Flames, ça me semble absolument pas pantoute.
Tu sais, là, moi, des fois, je regarde des matchs, t'aurais dû gagner, t'aurais dû perdre. Est-ce que le Canadien aurait dû perdre ce match-là? Pas de la manière qu'ils ont joué, mais tu sais, les deux équipes jouaient de la même manière. Ils ont eu des chances de marquer. Écoute, Anderson une couple de fois, Caulfield a pogné Wolf dans le coin du masque, le retour était là, Slavkovski dans l'enclave. Ils ont eu des chances de marquer. Est-ce qu'ils méritaient un meilleur sort? Oui, parce que je dis, au moins un point. Un point, là, ça aurait tellement été un meilleur sort pour te dire qu'au moins on a eu un point. Tu sais, au moins on est allé chercher un point. Calgary méritait pas plus 2 points que le Canadien dans ce match-là. Alors, je me dis, oui, il méritait mieux. Mais comme François l'explique, des fois, là, tu joues un bon match puis tu perds 1-0. Ouais. Des fois, tu joues un mauvais match puis tu gagnes 4-2. Écoute, c'est ça la Ligue nationale.
Ouais, moi, je trouve
ce que j'ai aimé de ce match-là, je m'excuse de t'interrompre, Martin, mais j'ai aimé de ce match-là, c'est que ce match-là opposait 2 clubs qui se battent pour une place en série, mais pas dans les mêmes associations. Alors, ils ont joué le même. Calgary a joué un match de route à la maison. Ils ont joué un match. Bon, Caulfield a fini quoi, 6 ou 7 tirs au but. Là, j'ai pas ma feuille en avant de moi, mais écoute, il en a mitraillé une coupe. Puis, je dis pas que le Canadien méritait pas de gagner, mais je comprends ton évaluation du meilleur sort avec le point au perdant, là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un club qui s'est fait voler là-dedans. Il y a eu un gagnant, un perdant, et c'est pour ça que j'ai pas parlé de meilleur sort, c'est tout.
Ouais, non, moi, je suis d'accord avec vous. Ça a été un match bien disputé. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'était une question FX Bénard, qui travaille très fort. Juste pour faire le contraire de ce que François a dit, qui a dit qu'il avait répondu pas partout à toutes les questions. J'en prends la seule que François a répondu absolument. À votre avis, le Canadien va prolonger... Après ça, on me diront que je cherche le trouble. Pas pantoute. À votre avis, le Canadien va prolonger Savard et Armia à la fin de la saison? Absolument! Pas pantoute! Excuse-moi, Martin, je vais commencer encore avec François.
J'ai dit absolument parce que c'est deux gars qui peuvent être utiles aux Canadiens la saison prochaine. Maintenant, est-ce que d'autres formations vont offrir plus que le Canadien? On verra. Je vais commencer avec Savard. 3,5 millions cette année. Il mérite ce salaire-là sans problème. Il a 34, s'en va sur 35. Si Savard veut encore jouer dans la Ligue nationale puis qu'il est prêt à signer des contrats annuels, ben, il peut continuer encore l'année prochaine à 3,5 millions avec le Canadien. Je n'ai pas de trouble avec ça. Armia, j'aurais été le premier à dire on le laisse partir l'année passée puis l'autre année d'avant. Cette année, l'espèce d'osmose avec Jake Evans a donné une nouvelle dimension aux deux joueurs. Alors, il fait 3,4. Si tu le signes en bas de 3 puis qu'il veut continuer sur une base annuelle, quoi qu'à 31 ans, il va peut-être avoir une meilleure offre quelque part. Alors, moi, je suis prêt à les signer. pas prêt à me saigner pour les signer. Mais je veux, si je peux les garder à bon prix, je fais la même chose que j'ai faite avec Evans. Mais pas du long terme pour ces deux-là, par exemple.
Non, je suis d'accord. Puis il y a 2-8-5 comme Evans. Je trouve ça respectueux. 2 ans. Armia, c'est un bon patineur.
Marty, à votre avis, le Canadien va prolonger Savard et Armia à la fin de la saison? Absolument pas pantoute.
Pas pantoute. I think Savard, oui. Armia, non. Écoute, j'aimerais
oui.
tellement ça que Savard soit 35 ans là,
ouais.
parce que comme ça, je donnerais un contrat d'un an avec des bonnies. Mais il n'y a pas 35 avant fin d'octobre, fait qu'il ne peut pas signer là, avec bonnie signature. C'est seulement pour les 35 et plus. Alors, là où je m'inquiète un peu, j'aimerais ça lui donner là, un contrat avec bonnie puis dire ben on va t'organiser ça. Mais le problème pour moi, Armia, là, si je regarde à l'avant, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Laine, Gallagher, Anderson, Evans, Doc, s'il revient, puis s'il est en santé, Newark, Heinemann, Beck, Demidov. Tu sais, il y en a tellement, là, puis il y en a d'autres. Puis je me dis, t'as-tu besoin d'un Yoel Armia ou tu peux aller chercher quelque chose d'autre? Puis je pense que c'est temps de passer à d'autres choses. C'est simplement ça. Alors moi, je suis oui pour Savard, non pour Armia. Puis pas qu'il a mal fait cette année. Non, il fait bien, mais je pense à quelque chose d'autre.
Essaye de te faire rire, Martin et François. Martin, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Buffalo? Ça prend des bons vétérans. Arrêtez des échanges.
Oui, je vais aller chercher un autre vétéran, mais j'ai pas besoin d'Armia.
OK.
Tu sais, écoute, Armia, il va faire quoi l'année prochaine, d'après toi?
En salaire ou comme performance?
En salaire et en performance.
Ah, 2-8-5 comme Evans, je trouverais ça bien garder cette quatrième-là intacte.
Mm-hmm. OK, mais la différence, c'est qu'Evans, il a passé d'un 7 à 2-8-5. Armia, il fait 3-4.
Oui, mais il vaut pas 3-4.
Ben, je sais bien, là, mais, tu sais,
okay.
C'est pas la même affaire. Peut-être qu'il dit, j'aime mieux faire 2-8-5-3 quelque part d'autre que de le faire à Montréal. Je prends une, tu sais, tu me coupes mon salaire. Je te dis, moi,
bonjour.
Ça en prend des vétérans. C'est pour ça que je garde Gallagher puis Josh Anderson. Écoute, ces gars-là, là, j'aurais pensé les acheter. Si tu m'avais demandé, là, au mois d'octobre, qu'est-ce que tu fais avec Gallagher puis Anderson l'année prochaine, je les rachète. Mais là, je regarde jouer, je me dis... Non, je le donne une autre année au moins. C'est deux vétérans que je garde.
La grosse raison pourquoi tu les gardes, c'est parce que tu peux t'époigner avec au salaire TP.
Ils sont plus durs à passer, oui, effectivement.
Martin, je reste avec toi, OK? Les deux derniers matchs prouvent que Juraj Slafkovský ne peut pas coller son style à celui de Brady Tkachuk à long terme. C'était pas, disons-le, comme les matchs au retour des Quatre Nations, les derniers matchs de Juraj Slafkovský. Absolument pas pire à tout.
Absolument. Puis c'est pas être méchant contre Slafkovský. C'est pas un fou comme Tkachuk. Tkachuk est fou. Tkachuk, il embarque sa glace, là. Les fils se touchent, il pète le plomb. Il est de même. Il est de même, là. Puis quasiment, c'est un défaut des fois. L'autre fois, si je me souviens plus quel game qu'ils ont gagné, écoute, il marque un but. 3 minutes après, il prend une mauvaise punition. C'était contre Chicago, Bertuzzi. Il t'a le gelé sur le bord du banc pour aucune raison. Je me dis, voyons, mais c'est ça que tu as avec Tkachuk. Il est à 100% tout bord, tout côté. Puis des fois, il y en a des mauvais, des fois, il y en a. Slafkovský n'est pas de même. Slafkovský, il est gros, il est costaud. Il ne joue pas aussi physique. Il ne sera jamais Brady Tkachuk. Il ne sera jamais.
Non.
Jamais un catch-up.
Pis comme Kent Hughes disait, on t'a pas repêché pour que tu sois Jack Hughes. Et des fois, il a l'air de quelqu'un qui veut faire les belles passes, les beaux jeux du bout de la palette du Jack Hughes. Moi, je pense qu'il faut qu'il se serve plus de ses épaules. Puis ça a payé quand il a joué de cette façon-là. François, hâte de voir ce que tu vas nous dire. Les deux derniers matchs prouvent que Juraj Slafkovský ne peut pas coller son style de jeu à celui de Brady Tkachuk à long terme. Absolument pas pantoute.
Ben, moi, je dis pas pantoute parce qu'il faut lui donner du temps aussi. Brady Tkachuk, c'est dans son ADN. Il est sorti du ventre à sa mère. La première chose qu'il a faite, c'est donner une claque à son père, puis à sa mère, puis à son frère. Puis quand ils ont mis dans bassinette les deux ensemble, ils se sont mis à se tapocher. C'est dans leur ADN. Ils sont comme ça. Slafkovský, c'est pas dans son ADN. Il a le physique pour le faire et il doit apprendre à le faire. Et la beauté, Martin, les deux Martin, c'est que s'il l'apprend comme il faut, il va développer plus de contrôle et de discipline que Brady en aura jamais. Alors, il faut juste donner le temps à Slafkovský d'adapter ça, puis de le... pas juste de l'adapter, de l'adopter, et de comprendre qu'est-ce qui doit être fait. Il a donné des flashs, mais c'est sûr qu'il ne fera pas ça à tous les soirs. Il va falloir que ça devienne un peu plus dans sa nature. Je vais vous donner un exemple, puis toutes les comparaisons sont boiteuses, là. Mais regardez le gros ours à Dallas qui s'appelle Jamie Benn. Tu sais, il est flambou des fois. Il est gros, il est fort, il a du talent, il a tout, ce gars-là. Puis il y a des soirs, on a l'impression que c'est une grosse balloune, sa patinoire, qui se passe à rien. Mais quand ça s'allume, bang! Moins maintenant, mais il y a 3-4 ans, là, quand il était dans ses grosses années. Alors, ça, là, Slavkovski va apprendre à le développer. Mais Patin, il y a 20 ans. Ben, on va lui donner le temps un petit peu.
Ouais, Ben est mean. Je suis pas sûr que Slav, c'est mean.
T'sais, quand je regarde Slavkovski, là, qui que je voudrais qu'il regarde quelqu'un et dire c'est comme ça que je vais jouer, c'est Valery Nichushkin. Si moi, là, Slavkovski, okay, c'est un gros bonhomme, c'est pas Brady Tkachuk qui va mais Nichushkin, il gagne des batailles un contre un. Il est imposant physiquement. Il marque. Tu sais, Nichushkin, il est marqué à 6 pieds 4, 210 livres, 215 livres. Slavkovski est marqué à 6 pieds 3. Je pense qu'il est plus que 6 pieds 3, là, mais il est 6 pieds 4, mettons, 220. Même physique, moi, là, Valery Nichushkin puis Slavkovski, je pense que ça devrait être pareil.
Okay. Mais j'espère juste que Slavkovski ne lâchera pas ses chums en série comme Nichushkin l'a fait trop souvent.
Non, ça, t'as raison. Ça, c'est pas la même affaire.
Ouais, t'as okay. un autre département.
J'arrête là.
On finit avec le trophée Calder. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point on est privilégié d'avoir une course Calder comme ça. On n'a pas eu ça souvent. Mm-hmm. Dustin Wolf doit être considéré comme le favori au trophée Calder. Qui a commencé la dernière? C'est Martin.
Ah, Vas-y, Martin.
Moi, j'ai dit pas pantoute. Puis pourquoi j'ai dit pas pantoute? Parce que je peux pas prendre une décision avec 20 matchs à jouer. T'sais. Est-ce que le fait que Dustin Wolf puis les Flames sont en séries éliminatoires présentement. Une grosse, grosse qualité pour Wolf, 100%. Si la saison finit ça aujourd'hui, là, je pense que avec Lane Hudson qui ne fait pas les séries, puis Celebrini ne fait pas les séries, Mitchkov ne fait pas les séries, Wolf, c'est un gardien de but, le gardien de but numéro un, je le mettrais là. Mais là, je ne peux pas dire qu'il va le gagner parce que c'est le préféré, puis tout ça, parce qu'il reste encore une vingtaine de games, puis ça peut changer. Mais si Game 82 avait été joué hier soir, oui, ce serait Wolf, mais je ne peux pas encore y donner. Il y a trop de matchs qui restent à jouer.
Complètement dément. Vladar, présentement, a 11 défaites depuis le début de l'année. Wolf en a 12. Je comparerais les deux parce qu'il y en a un qui a joué 38 matchs, l'autre 25. Les statistiques sont complètement à l'opposé. François, je te lance. Dustin Wolf doit être considéré comme le favori au trophée Calder. Absolument, pas paying tout.
Absolument. Et puis... Martin, tu as raison, là, puis on va attendre après 82 matchs, on verra. Moi, je m'amuse parce que j'espère à tous les ans avoir un droit de vote, puis je chéris ce droit de vote-là, je trouve que c'est un privilège. Puis à chaque quart de saison, je fais un bilan. Ouais. Puis je me mets mes 5 votes au premier quart, au deuxième quart, au troisième quart, puis à la fin de la saison. Puis après mes 5 votes, je mets des considérations, à prendre en considération. Mais début de la saison, au premier quart, c'est Dustin Wolf qui était là. Puis Celebrini avait été blessé, c'est pas de sa faute. Deuxième quart, Celebrini revient, Hudson est en feu, récolte beaucoup de passes. Ceux qui vont, les détracteurs de Hudson, puis il y en a quand même, vont dire qu'il y a bien des deuxièmes passes puis des affaires qui orchestrent une sortie d'onde puis finalement, il récolte. Mais regardez-les aller, là. Les passes, ils tombent pas du ciel. Ils écrivent énormément. Alors, pour moi, Celebrini puis Hudson sont deuxième et troisième, ou troisième et deuxième, comme vous voudrez, mais Wolf est encore une petite marge en avant d'eux autres à cause de ce que tu viens de dire. Il est en train d'amener son club en série et c'est un gardien. C'est encore plus dur. L'année passée, je l'ai voté pour Faber parce que c'est encore plus dur pour un défenseur qu'un attaquant. Mais quand tu as un débat entre un défenseur puis un gardien, personnellement, je vais favoriser le gardien s'ils sont égal à égal. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, Dustin Wolf est en avant. Ouais. Il y a un facteur, l'âge. Le Calder, on a tendance à le donner à des gars plus jeunes et ça va certainement favoriser Celebrini sur plusieurs bulletins de vote. Et ça va faire du tort un peu à Dustin Wolf qui a quoi, 23?
Ouais, mais je me trompe-tu, moi, là? Un gardien but ne peut pas arriver à 18-19.
Exactement, tu as tout à fait raison. Alors, c'est pour ça que, personnellement, j'écarte le volet âge quand je compare un gardien avec des attaquants et des défenseurs.
Messieurs, vous avez été superbes. Martin est content. Josh Allen a re-signé. François est content. Ça se peut qu'il y ait Aaron Rodgers comme carrière.
Pourvu que l'argent qu'il donne à Josh Allen, il ne l'enlève pas du building qu'ils sont en train de construire. Parce que j'ai vu ce stade-là, là, Monde de Montréal, là, vous voulez venir voir un match des Bills dans 2 ans dans le nouveau building, là, ça va être hot en tabarouette.
On a hâte d'y aller. On a hâte d'y aller. Martin, on va aller te voir à Buffalo en plus. Ça va être, on voit les Bills et on voit Martin Brion.
On devrait faire là, un tailgate BPM Sport avant un match des Bills. Avoir, tu sais, genre, je fais pas ça dans un autobus, puis on va t'organiser ça. On va sauter sur des tables. Hey, juste vite de même, là. Le soir, contre les Sharks de San Jose la semaine passée, les Sabres, il y avait Buffalo Bills au Sabre. Tu sais, la night, Sabretooth qui a sauté, là, au travers d'une table. Hey, puis hey, le monde a capoté. Fait qu'on va sauter dans des tables. Ah, voyons, il va.
Toi, tu le fais, tu?
Ben, ça dépend si la table est dure ou...
Et si, à moitié, ça va t'aider. Ben, si j'y vais, j'amène mon chandail des Steelers puis mon casque de Terry Bradshaw, par exemple.
Tu resteras loin de moi parce que tu peux te faire brasser des fois.
C'est pas grave, ça n'a jamais fait peur à personne.
Salut, les gars, attention à vous autres.
Salut, les boys.
Bye.